La politique, c'est le mot vient d'un mot grec qui signifiait la cité, et ça a été étudié par les grands philosophes comme Platon et Aristote, surtout Aristote qui a défini la politique comme le pouvoir de diriger l'État et surtout d'organiser le bien vivre ensemble. Pas uniquement vivre ensemble, parce que ça, comme il le disait lui-même, les animaux savent le faire, vivre ensemble, mais bien vivre ensemble, voilà le projet politique que se faisait Aristote, que se sont fait les Grecs, et puis bon, la plupart des gens depuis.
Et aujourd'hui, nous vivons en démocratie représentative. Est-ce que vous pouvez rappeler l'étymologie du mot démocratie et sa définition ?
Les démocraties, étymologiquement, c'est démos, c'est le peuple, et kratos, c'est le pouvoir. Donc la démocratie est le pouvoir du peuple. Mais il faut distinguer entre démocratie de souveraineté, c'est-à-dire décision. Dans une démocratie de souveraineté, c'est toujours le peuple qui a le dernier mot, d'une façon ou d'une autre. Et puis la démocratie de gouvernement, qui elle, évidemment est très rare, implique que ce soit les citoyens eux-mêmes qui gèrent les affaires du pays, de l'État, y compris ce qu'on appelle les affaires régaliennes, comme la défense, le budget, etc. Bon, ce qui n'est effectivement concevable que pour des tout petits États, des petits groupes. Dans les grands groupes, on a été amené depuis longtemps à mettre en œuvre la démocratie dite représentative, un corps intermédiaire, mais qui effectivement est de plus en plus critiqué actuellement.
Est-ce qu'on peut faire le même constat que Rousseau, qui explique dans Le Contrat social qu'une démocratie réelle est impossible dans un groupe de population important ? Est-ce qu'il faut faire le deuil d'une démocratie réelle ?
Oui, Rousseau, vous avez raison. Rousseau prétendait que la démocratie de gouvernement n'était possible pour des tout petits États. Il avait, de son vivant, écrit sur la Corse et sur la ville de Genève. Bon, peut-être qu'il a prévu un projet de constitution pour Genève, mais pour tout le reste, effectivement, il prétendait que ce qu'il fallait mettre en œuvre, c'était soit l'aristocratie de gouvernement, soit la monarchie, comme il l'appelle. Après tout, c'est ce qui correspond aujourd'hui à notre régime présidentiel, quoi. Sinon, effectivement, c'est absolument infaisable. On ne peut pas, avec plus de 60 millions de personnes, demander l'avis de chacun tous les matins à propos de n'importe quoi, c'est sûr.
Comment on pourrait définir notre démocratie représentative que vous venez d'appeler aristocratie de gouvernement ?
Eh bien, c'est-à-dire que c'est une démocratie de délégation. Alors c'est ce qui est à la fois bien, parce que c'est malgré tout efficace, et puis en même temps très critiqué, aujourd'hui avec tous les mouvements qu'il y a, mais pas uniquement en France, à la mesure où ça consiste à donner un blanc-seing à des personnes qui sont censées nous représenter pendant X années, et sur lesquels on n'a plus prise une fois qu'on a voté, quoi. Donc on a des députés, des sénateurs, des conseillers départementaux, régionaux et compagnie. Et puis, bon, au moment des élections, ils sont où elles sont, tout gentils et toutes gentilles. Et puis après, bon, on peut effectivement leur reprocher de ne pas forcément appliquer le programme pour lequel ils ou elles ont été élus. Bon, c'est ce qui se produit un peu partout. Encore que, bon, à mesure où il y a des élections à échéance régulière, les élus ont bien intérêt, s'ils veulent se représenter, à réaliser une partie de leurs promesses. Mais enfin, c'est pas toujours bien facile, effectivement.
Pour prendre un petit peu de recul, quels ont été les rapports entre philosophie et politique au cours de l'histoire ?
Bon, les rapports ont souvent été très proches. Beaucoup de philosophes d'Antiquité grecque dont je parle au début, les philosophes sont presque tous intéressés à ma connaissance, à part les épicuriens qui étaient opposés à tout engagement politique. À part Épicure, donc, à ma connaissance, les stoïciens, Platon et Aristote et les autres, se sont intéressés à la politique, ont écrit sur la politique. Certains ont fait de la politique, Platon en a fait lui-même d'ailleurs. Aristote a été le précepteur d'Alexandre le Grand, donc indirectement, il a essayé de forger un dirigeant, quoi, politique, d'importance même. Et puis, par la suite, effectivement, bon, après, pendant l'époque chrétienne, il y a eu des théoriciens du pouvoir absolu. Je pense au XVIIe siècle, des gens comme Bossuet ont fait de la politique dans la mesure où ils auront justement essayé de défendre le pouvoir du roi comme lieutenant de Dieu et puis en même temps gardien du peuple, quoi. Donc au XVIIIe siècle, alors encore plus, le siècle des Lumières, là, c'était le siècle des despotes éclairés, entre guillemets, comme l'ont dit les Allemands, les Français, Voltaire, etc. Puis il y a eu Rousseau, bien sûr. Puis au XIXe siècle, que ce soit en France ou ailleurs, effectivement, la politique a beaucoup marqué, avec, à la suite de la Révolution française et des autres révolutions, ne serait-ce que parce qu'on a discuté des différents systèmes à mettre en place, des différentes constitutions à rénover, à organiser, etc. Et donc, bon, le XXe siècle aussi. Donc je dirais qu'effectivement aussi la philosophie politique, comme on dit, a toujours existé, et puis elle continue à exister, parce qu'effectivement la politique est quand même une affaire, puisque c'est le titre de la causerie, une affaire importante, quoi, hein, ça concerne tout le monde, et puis c'est pas sur des points négligeables.
Est-ce que certains dirigeants politiques ont vu la philosophie ou des philosophes d'un mauvais œil ? On rappelle que Socrate a été condamné à mort par les dirigeants athéniens pour corruption de la jeunesse.
Oui, c'est vrai, ça existait, effectivement, à mesure où les contestataires sont, par définition, mal vus du pouvoir, et donc, dans les régimes autoritaires, c'est arrivé, on donne l'exemple de Staline, effectivement, qui s'est pas gêné pour éliminer tous les contestataires, Mao aussi, mais enfin, ça existait aussi dans nos démocraties occidentales, il y a eu des affaires, quoi, on appelle ça des affaires, parce qu'il y a des gens qui disparaissent, il y a des gens qui sont mis au pas, il y a la presse qui est muselée ou qui a été muselée parfois, même en France, par rapport à des chefs d'État ou de gouvernement ou des politiques. Donc effectivement, oui, les contestataires, les critiques sont souvent effectivement plus ou moins menacés, oui. C'est pas nouveau.
Vous avez évoqué la philosophie des Lumières. Quelle influence a eu cette philosophie sur nos systèmes politiques contemporains ?
Oh ben, ça a été fondamental, surtout effectivement avec Rousseau et Kant, puisque bon, Rousseau avait déjà fondé les principes de la, oui, de la démocratie représentative qui a été adoptée pas telle qu'elle, mais presque par la Révolution française, quoi, par la première déclaration des droits de l'homme et puis par la première constitution. Et puis Kant aussi, quelques temps après, a développé effectivement des idées de droit international. Il a écrit un projet de paix perpétuelle qui préfigure les Nations Unies d'aujourd'hui. Et donc effectivement, ils ont été visionnaires et ils ont amené effectivement cette idée de démocratie qui a été plus ou moins concrétisée par la Révolution française pour ce qui nous concerne, et puis ensuite qui est à mettre à mon avis au bilan de Napoléon Bonaparte qui a exporter, si je puis dire, le modèle républicain dans pratiquement tous les pays qu'il a conquis en Europe, quoi, hein, à l'exception de la Russie et l'Angleterre, comme vous le savez. Enfin bon, il a en tout cas supprimé le despotisme, les monarchies absolues, partout où elles existaient, elles ont été supprimées et remplacées par des systèmes, disons, peut-être parfois un peu bâtards, mais enfin, qui s'inspiraient effectivement de l'idéal démocratique républicain, oui.
Au XIXe siècle, Léon Gambetta définissait la politique comme étant l'art du possible. De son côté, la philosophie est une affaire de concept. La philosophie est-elle soluble dans la politique ?
Oui, c'est-à-dire que le possible, c'est pareil, l'art du possible, je ne sais pas ce que Gambetta voulait dire exactement, mais enfin bon, c'est vrai que la politique doit se démarquer de ce qu'on appelle le domaine politicien aujourd'hui, c'est-à-dire prendre un peu de hauteur et puis envisager comment dire l'avenir, quoi, l'avenir proche ou plus ou moins lointain, mais ne pas se contenter de faire de la gestion, comme parfois se reprocher. Il ne s'agit pas de gérer au jour le jour, encore que bien sûr il faille le faire. Gérer une nation au jour le jour, c'est pas forcément de la politique. La politique, c'est préparer un avenir intéressant aux générations existantes et aux générations futures, quoi. Mais là, ça demande des idées et des idées à renouveler en fonction de ben, justement de ce qui se passe, des affaires, du cours du monde, de l'économie, de la démographie, etc.
Vous avez évoqué les limites de nos démocraties représentatives. Dans la conférence que vous avez donnée ce samedi à Ussel, vous allez parler de démocratie participative ou encore de démocratie délibérative. Qu'est-ce que c'est ?
Oui, je crois que c'était effectivement important parce que c'est par là que probablement il y a des solutions. La démocratie représentative est critiquée, c'est vrai. Et donc la démocratie participative, comme on l'indique, consiste à faire participer un maximum de gens à des décisions, bon, par le vote, le plus souvent par des référendums, qui soient locaux, régionaux, nationaux. C'est un plus, indiscutablement. Mais ce qui est encore plus intéressant, à mon avis, et qui est développé surtout, notamment au Canada, et puis dans certains pays du nord de l'Europe, c'est la démocratie délibérative qui s'inspire des jurys d'assises, dans le domaine de la justice en France, c'est-à-dire qui consiste à tirer au sort des citoyens volontaires, et puis à les faire se réunir par petits groupes, souvent c'est des groupes d'une quinzaine, enfin, ils se réunissent avec des experts, des politiques, et ils essaient effectivement de résoudre un problème, de répartir un budget, choses comme ça. Donc effectivement, avec ce système-là, qui suppose pas uniquement un vote là une fois pour toutes, mais qui suppose que les gens se réunissent régulièrement, comme pour un jury au tribunal, quoi, qui oblige les gens à s'écouter, à faire confiance, à chercher une issue en mettant de côté leurs intérêts partisans, s'ils en ont. Normalement, effectivement, peut-être que ce ne sera pas la solution magique à tous les problèmes qui se posent, mais ça peut être une solution pour plus de démocratie active, à tous les niveaux.
Le tirage au sort pour choisir des dirigeants a été utilisé pendant plusieurs siècles par la démocratie athénienne. Il a aussi été utilisé par les républiques de Florence et de Venise à la fin du Moyen-Âge et au début de la Renaissance, et également par certains cantons suisses au XVIIIe siècle. Est-ce qu'on pourrait aller un peu plus loin et imaginer un tirage au sort pour élire des dirigeants dans nos démocraties actuelles ?
Ah bah oui, il y a des partis qui militent ou des mouvements qui militent pour l'abrogation du Sénat en France et pour son remplacement par des citoyens tirés au sort. Donc effectivement, ça peut s'envisager, hein. C'est sûr que, bon, reste à voir si l'utilité du Sénat est vraiment à remettre en cause. Bon, ça, c'est une affaire qui se discute, mais c'est vrai que ça peut se faire, oui, c'est matériellement un peu compliqué à faire. Et puis c'est pareil, ça suppose bien sûr que les citoyens en question soient suffisamment éclairés et puis suffisamment soucieux du bien public. Bon, si effectivement on arrive à avoir ces deux conditions, tout est possible, comme vous le dites, c'est fait par le passé. L'inconvénient dans des États comme le nôtre actuellement, c'est le nombre, quoi. C'est sûr que sur 70 millions, pas 70, mais presque, d'habitants, on ne peut pas faire participer tout le monde. Bon, donc, il y a des difficultés, quoi. C'est plus facile pour des petits groupes.
Est-ce que la politique contemporaine et son langage font qu'on finit par penser que c'est une affaire de spécialistes, justement ?
Oui, bon, c'est pas nouveau non plus, mais enfin, bon, c'est vrai que bon, je parlerai aussi de la bureaucratie et de la technocratie, qui sont deux réalités consubstantielles à l'État, quoi. Il y a pratiquement pas d'État sans bureaucratie ni sans technocratie, mais c'est vrai que effectivement dans ce domaine-là, il y a des formations, il y a une caste au pouvoir. En France, c'est les énarques qui effectivement squattent la plupart des postes importants et qui ont, par leur formation, appris à parler, appris à gérer les foules, en tout cas les publics, et qui effectivement exercent ce pouvoir de façon, par le fait, le plus souvent, non pas élective, mais administrative, quoi. Ils sont placés à des situations clés qui leur permettent de gérer les affaires, ce qui n'est pas forcément considéré comme normal par tout le monde.
Je rappelle que le dernier ministre issu de la classe ouvrière, c'était Jean-Claude Guessot, sous le gouvernement Jospin de 1997 à 2002. Est-ce qu'on peut constater, faire le constat d'une fracture entre le peuple et nos dirigeants ?
Oh, une fracture, je ne sais pas exactement, mais en tout cas, effectivement, des malentendus, je pense. Ça, toujours, c'est pas forcément nouveau, hein. Mais c'est vrai qu'il y a des malentendus. Le système politique français, mais même européen, et pas uniquement, est fait de telle sorte que les élus constituent une sorte de caste ou d'élite qui est quand même assez souvent coupé de la base, pas toujours, hein, mais assez souvent. Et puis, c'est pareil, les médias rapportent des affaires, comme on dit, qui sont réelles, et qui contribuent à discréditer encore plus le personnel politique, ce qui fait que, bon, une sorte de méfiance, peut-être de divorce, mais de méfiance entre la base électorale et puis nos représentants. Mais bon, c'est pas forcément dramatique, et puis ça peut s'arranger, ça peut évoluer, on peut mettre en place justement de nouveaux garde-fous. En tout cas, bon, il faut être optimiste.
À la fin des années 90, le groupe de rap Assassin expliquait dans un morceau qui s'appelle toujours Shoot à Babylone, « Si tu ne t'occupes pas de politique, la politique s'occupe de toi ». Est-ce qu'un mouvement comme le mouvement Nuit Debout rappelle que la politique reste et devrait être toujours l'affaire de tous ?
Oui, bien sûr, oui, c'est tout à fait d'actualité. Oui, ça s'inspire, je dirais, plus ou moins de ce qu'on a connu, Podemos en Espagne, effectivement. Bon, pour le moment, c'est effectivement un peu tôt pour savoir d'où ça vient, où ça va, mais que des gens se réunissent pour discuter justement ensemble et de façon tout à fait ouverte sur tous les sujets, ça paraît tout à fait salutaire. Ça montre bien que la politique n'est pas détestée ou ignorée par la plupart des gens, et qu'au contraire, elle les intéresse, donc c'est positif. Mais bon, c'est vrai que pour le moment, c'est un mouvement qui est sympathique, je dirais, mais dont on ne connaît pas encore les intentions et l'issue, quoi, sur quoi ça va déboucher. On pourrait espérer que ça débouchera sur quelque chose de positif pour l'ensemble des Français, mais bon, c'est l'avenir qui le dira.